Mais il est de retour, encore une fois cette semaine, et c'est un grand plaisir. David Gauthier, salut!
Salut Valérie, ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Oui. On va faire un tour d'actualité médicale. Oui,
on fait le tour.
On fait le tour et on va commencer. J'en ai glissé un mot la semaine passée, le diabète. On en connaissait deux types, mais en fait, il y en aurait cinq.
Écoute, super intéressant hein, comme étude que des chercheurs européens ont fait. Il faut le noter, c'est des chercheurs suédois et finlandais et si je ne me trompe pas, ils ont pris quand même 15 000 diabétiques. Là.
Mais ils sont forts à tous les points, ces Scandinaves quand même, hein? Pour l'avancée de toutes sortes de choses, du bien-être, de la santé.
On devrait souvent se fier sur eux, même pour notre système de santé, hein, finalement. Je suis d'accord avec toi. Et le diabète est un sujet de l'heure aussi, parce qu'en même temps, nous, on connaît le diabète de type 1 puis le diabète de type 2. Hein. Ouais. On exclut de ça le diabète de grossesse qui existe aussi. Diabète de type 1, on dit que c'est les jeunes, c'est dans le fond les cellules qui produisent l'insuline qui...
Un homme occupé.
Oui, David, ferme ton téléphone quand t'es à radio. Alors, le diabète de type 1, les cellules qui produisent de l'insuline au niveau du pancréas sont détruites et on dit qu'ils seraient détruites par le système immunitaire, finalement. Donc, c'est les jeunes à la naissance ou dans le jeune âge qu'on va trouver ça. Ils ne produisent pas du tout, donc il faut injecter de l'insuline. Mm-hmm. Et le diabète de type 2, qui était reconnu comme un trouble du métabolisme qui apparaissait avec l'âge. Donc, c'était reconnu avant hein, comme une maladie des 50 ans et plus, finalement.
Et des mauvaises habitudes de vie?
C'est relié aux mauvaises habitudes de vie. Donc, l'exercice, l'alimentation, l'obésité. Et là, je vais mettre un bémol là-dessus, Valérie. Le diabète de type 2, là, maintenant, c'est pas rare qu'un jeune de 18, 20, 22 ans, surtout aux États-Unis, malheureusement, mais qu'on va se retrouver avec un diabète de type 2, mais chez un jeune patient, chose qui n'existait pas avant. Là. Donc, c'est ça qui est d'autant plus intéressant de se retrouver finalement avec cinq types de diabète. On est-tu en train de mieux les classifier?
Mieux les soigner.
Et voilà, tout est là. C'est que ce n'est pas tant de trouver la définition de chaque maladie ou chaque type de maladie, mais plutôt de trouver le bon traitement suite à ça. J'y vais rapidement. Le type 1 serait un peu le même principe que le type 1 qu'on connaît aujourd'hui. Donc, des cellules détruites par le système immunitaire. Le type 2, ça serait la même origine que le type 1. Mais les cellules ne seraient pas détruites par le système immunitaire, donc ça serait d'une autre provenance, mais avec le même type de problème, finalement. Le type 3, relié au surpoids, résistance à l'insuline, donc il faut comprendre que même dans le type 2 actuel, ce fameux type 3-là, ça serait que, finalement, avec le surpoids, on fournirait de l'insuline, le pancréas en fournirait, mais l'insuline ne ferait pas sa job, ni plus ni moins. Okay? Et le type 4, on est encore chez les obèses, mais avec un métabolisme qui serait plus normal, finalement. Et le type 5, c'est des patients qui sont plus d'âge moyen, mais avec une tendance moins grave. Donc,
excuse-moi, un âge moyen, tu parles de quoi?
Mais eux, c'est drôle, hein, parce qu'ils ont parlé d'un âge moyen, mais quand même plus âgé que d'autres types. Donc, probablement qu'ils parlent des 50-60 ans.
Okay.
Mais
avec c'est le nouveau 40.
Là, voilà.
T'as fait ça, hein?
Yes! Moi qui ai 37, je suis assez content. mais c'est ça. Fait qu'avec un type moins grave. Mais ceci étant dit, d'avoir ces cinq-là, c'est d'arriver avec une médecine avec plus de précision. Donc, écoute, intéressant. Où est-ce que ça va nous mener, je le sais pas. Mais c'est quand même une recherche qui est faite sur beaucoup de patients. Là. Alors, pour l'instant, qu'on continue à penser qu'il y a un type 1, un type 2, puis le diabète de grossesse. Mais je pense que c'est quand même intéressant d'aller là, dans notre réflexion.
On a aussi parlé d'un rappel d'une pilule anticonceptionnelle.
Oui, c'est pas grand-chose, mais quand même, il faut le savoir, c'est le fameux Alicena. Le Alicena, là, pour ceux qui cherchent un peu c'est quoi, c'est le Alès. Le Alès, c'est la marque... la marque originale, finalement, de la pilule contraceptive. Alicena, c'est le générique qui est fabriqué par Apotex. Et le problème, c'est qu'il y a des comprimés roses, donc les comprimés qui ont de l'hormone à l'intérieur, qui étaient abîmés. Le comprimé peut vraiment être abîmé là, d'un bord ou de l'autre. Fait que ça veut dire qu'on n'aurait pas la dose complète. Oh. Okay? Probablement, problème au niveau de la contraception potentielle. Et souvent aussi, c'est que si je te donne pas la même dose d'hormones, tu pourrais te retrouver à aller avoir du spotting pour une raison que tu comprends pas, parce que je suis pas en train de te donner la même dose à tous les jours. Donc, ça peut causer un effet secondaire, ni plus ni moins. Mais pour ces deux raisons-là très importantes, il y a eu un rappel. Donc, juste pour dire, quand il y a un rappel comme ça, amenez-nous votre boîte à la pharmacie. On fait un échange qui est direct, on ne vous charge pas. Nous, on se fait rembourser là, pour les comprimés qui sont abîmés ou les boîtes qui sont potentiellement abîmées parce que c'est un rappel de l'eau. Donc, vous n'avez pas, commencez pas à regarder vos comprimés. Là. Ramenez-nous ça. Si vous pensez qu'il y a un rappel de l'eau de votre boîte, amenez-nous-le, on vous le confirme, on fait l'échange.
Et tu sais, comme j'aime les bactéries, les virus et autres petites bébites comme ça, la maladie X, paraît-il que ça va nous envahir bientôt, là, ça nous observe de loin. Oui. C'est quoi ça, au juste?
C'est quoi cette affaire-là? Je t'ai sûrement déjà dit, là, dans les dernières années, Valérie, que je trouvais donc les bactéries, les virus, c'était plus intelligent que l'être humain.
Surtout qu'on développe des résistances aux antibiotiques.
C'est un énorme problème. Ça serait peut-être un autre sujet, j'en ai déjà parlé, mais c'est un énorme problème. Et souvent, les virus qui nous attaquent, c'est des virus qu'on a de la misère à se défendre. Et ce qui fait surtout en sorte qu'on a un problème, c'est la rapidité à laquelle un virus peut nous attaquer et la rapidité à laquelle nous faudrait réagir. OK? La maladie X, c'est quoi? C'est que, dans le fond, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ont ajouté cette maladie-là à son plan d'action prioritaire de développement contre les maladies. OK? Dans cette gamme, dans cette liste-là, il y a le Zika, il y a l'Ebola. Donc, eux autres, c'est une liste qui se disent, attends une minute, là, contre ces virus-là, il va falloir préparer un plan d'action. OK? Mais eux, ce qu'ils disent, là, c'est que la maladie X, c'est la maladie qu'on ne connaît pas encore, mais qui disent, ben, c'est probablement la prochaine pandémie qu'on va avoir, qui va être causée par un pathogène dont on ignore la capacité de ce pathogène-là à nous causer un problème à l'être humain.
On ne sait pas grand-chose, mais c'est dangereux.
Mais c'est parce qu'ils se disent, hey, le prochain virus, il faut quand même se préparer parce qu'on ne le connaît pas encore. On ne sait pas les dommages qu'il va faire, mais on se dit, ben, probablement que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Tu sais, le fameux... Le premier exemple qui peut venir, c'est les virus qui passent par les animaux.
Ouais.
Le H1N1 qui venait d'un animal qu'on se
la
disait...
La vache folle.
Ça se transmet pas.
La grippe aviaire. Ces affaires-là.
C'est l'expression faciale que tu as. On voit la peur quand tu dis ça.
Jacob. C'était ça son vrai nom.
Mon Dieu. Mais tu sais, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on pensait que c'était d'animaux à animaux, que ça ne se rendait pas à l'humain. Puis finalement, ce fameux virus-là se rend à l'humain. Quand c'est rendu à l'humain, ça se propage de façon tellement rapide qu'on n'est pas capable de répondre à ça. Donc, eux mettent des plans d'action pour ça. L'autre affaire, c'est le terrorisme.
Ah,
écoute,
oui.
La technologie...
Bactériologique.
Mais la technologie est tellement rendue loin qu'on peut fabriquer un virus, là. On peut fabriquer un virus et le lancer là, de même.
Là, c'est moins à mode, mais il y avait l'anthrax, là, qui arrivait par paquet ou par enveloppe, là, à un certain moment donné.
Puis imagine, Valérie, s'ils prennent un virus qui essaie de le changer un petit peu, qu'il le rende résistant à quelque chose. Écoute, malheureusement, c'est possible. Ça existe dans des téléséries américaines, mais je pense que, malheureusement, des fois, la réalité rejoint drôlement la fiction. Fait que c'est des souches qui seraient finalement jamais vues et peut-être même que notre système immunitaire serait pas capable d'y répondre. Je te dirais que ça fait un peu peur.
On a pas le choix
d'attendre. Au moins, l'Organisation mondiale de la santé, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une maladie X qui existe, puis nous, on va essayer de se préparer contre cette maladie-là, de mettre en branle déjà, de se faire un plan d'action et d'attaquer cette maladie-là lorsqu'elle va arriver. Écoute, c'est drôle. Moi, ça revient tout le temps. Je suis tout le temps en train de me dire, mon Dieu, qu'on est à la merci de ça. Tu sais, tu sais, Valérie, 99,9% des bactéries qui existent sont essentielles à notre survie. Ouais. On ne serait pas là. Le fameux
0,1%... Il y a des traites là-dedans. Aïe, aïe, aïe.
Ben, le 0,1% fait en sorte que moi, j'ai un travail. Mais...
Ouais.
Mais en même temps, ça peut faire peur parce que, comme tu as dit, des fois, on ne sait plus comment se défendre contre ça. La résistance bactérienne, c'est un énorme problème, là. Je veux dire, écoute, on a des molécules avant qu'on gardait à l'hôpital. On se disait, on va garder cet antibiotique-là là, parce que les bactéries résistantes, on va avoir quelque chose contre ça. Finalement, maintenant, on les voit en communauté, donc on les voit en dehors de l'hôpital. Ça va devenir un problème, mais nous, il faut trouver d'autres antibiotiques aussi. Puis là, tu vois, au moins, on a des organismes qui essayent de se défendre aussi contre les prochains virus, mais je sais pas. Hein? On verra rendu là, mais
puis à vitesse où tout se développe en ce moment, même les bactéries, ça se développe vite, donc il faudrait trouver des solutions rapidement.
Alors, oui, puis à vrai dire, c'est un peu de notre faute.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, on utilise mal ce qu'on utilise.
Mm-hmm.
Je veux dire, les antibiotiques, on ne l'utilise pas nécessairement bien parce qu'on n'a pas le temps nécessairement de les utiliser bien, puis ça crée de la résistance. Puis je fais une parenthèse, là, juste pour les poux. Il y a un produit qu'on utilisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens, quand ils ont des poux, ils veulent traiter tout le monde dans la maison. C'est pas la façon de faire. Donc, on est rendu avec la permétrine, qui est une molécule qui fonctionnait super bien, qui est dans le NYX, que maintenant, il y a beaucoup de résistance. Donc, on peut plus beaucoup. On essaie d'utiliser autre chose parce qu'il y a de la résistance. Mais je fais juste parler de poux, là. Fait que tu comprends que la mauvaise utilisation peut faire en sorte que ça peut rendre assez loin quand les gens nous disent « Pourquoi c'est un annexe 2? Pourquoi vous l'avez en arrière du comptoir? » C'est peut-être un peu pour ça aussi. J'ai plein d'exemples de même, mais là, je sens qu'il faut que j'arrête.
Oui, bien, le temps file,
oui, j'allais te parler d'autres choses, mais
ça va toujours trop vite, David. Alors, on se reprend la semaine prochaine et on va te voir chez Brunet si on a des questions.
Avec plaisir.
Salut!
Bye-bye.